L'organe dont nous allons parler cet après-midi intéresse de plus en plus les scientifiques qui n'hésitent pas à le surnommer de deuxième cerveau. Et cet organe, eh bien, c'est donc notre ventre qui, avec tout son écosystème bactérien, recèle des trésors que nous sommes en train de découvrir en contact permanent avec notre cerveau. Il joue un rôle essentiel sur nos émotions, sur certaines maladies neurodégénératives et même sur nos décisions. C'est le thème donc de notre Tête au Carré cet après-midi avec mes invités Michel Neunlist, Dominique Darmon et Fabrice Papillon. Bonjour.
Bonjour.
À tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Michel Neunlist, vous êtes chercheur à l'INSERM en neuro-gastro-entérologie et vous travaillez à l'Institut des maladies de l'appareil digestif du CHU de Nantes. Dominique Darmon, vous êtes pédiatre, directeur de l'unité mixte de recherche INRA sur la physiologie des adaptations nutritionnelles qui se trouve au sein du Centre de recherche en nutrition humaine. Et puis Fabrice Papillon, vous êtes journaliste scientifique, c'est vous qui avez produit ce film Le Ventre, notre deuxième cerveau, qui a été lauréat du Grand Prix Paris Science il y a quelques jours, et vous publiez parallèlement avec Héloïse Rambert, Le Ventre, notre deuxième cerveau, aux éditions Talendier et Arte Éditions. Alors pourquoi justement parle-t-on de ce deuxième cerveau? C'est ce que nous allons voir avec vous en partant la découverte de notre flore intestinale. On verra notamment que notre système digestif joue un rôle essentiel dès les premiers instants de notre vie. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions qui arrivent en direct pour en parler sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Et puis dans la dernière partie de l'émission, Florence Porcel viendra me rejoindre pour une nouvelle semaine de quiz scientifique. Voilà pour le menu de cette Tête au Carré, réalisé cette semaine par Céline Hilla, avec un dossier préparé par Sylvain Guilbeault.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et comme tous les lundis, on démarre la semaine avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, on parle avec vous jeux vidéo et exploration spatiale avec un projet de réalité augmentée lunaire qui fait pas mal de bruit en ce moment sur le web.
Oui, un sacré projet. Une mission lunaire privée qui vient pointer son nez dans le grand monde du jeu vidéo. Son instigateur s'appelle Daniel Schaffrier. Il est étudiant à l'université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Et son idée est d'adapter le robot Andy de la firme Astrobotic qui devrait partir pour la Lune fin 2015 avec le masque de réalité augmentée le plus en vogue du moment, l'Oculus Rift. Écoutez-le.
J'ai imaginé cette amélioration avec le masque Oculus le mois dernier et les gens sont très excités par ça. Nous avions deux caméras sur le robot et il y a deux écrans sur l'Oculus. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas combiner ça ensemble? Et ça fonctionne. Le masque Oculus a des capteurs de mouvement et sait quand vous tournez la tête. Alors, on a adapté notre caméra pour qu'elle tourne selon les mouvements de la tête de celui qui porte le masque. L'idée est de faire en sorte que les gens se sentent comme sur la Lune. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout de faire de jolies vidéos. La partie Oculus, c'est pour faire cool.
Alors imaginez Mathieu, hein, vous enfilez le masque et vous vous promenez en direct sur la Lune à travers les caméras du petit robot Andy.
Bon, ça sent pas un peu le coup de pub cette affaire Axel?
C'est plus que ça, c'est du flan.
Ah carrément, déjà, vous êtes plus radical.
Oui c'est ça, parce que le délai de transmission de 3 secondes aller-retour avec la Lune interdit tout réel direct et qu'en plus la disponibilité du robot pour chaque utilisateur du masque est impossible à gérer. En fait c'est tout simplement une forme de communication virale dans le but de lever plus de fonds pour la mission. Je vous explique, Andy le robot participe au concours Lunar X Prize, organisé par Google, qui récompense à hauteur de 30 millions de dollars la première équipe privée qui réussira à poser sur la Lune un robot et à parcourir 500 mètres avant fin 2015. Et en ce moment, c'est la course au financement. De grandes compagnies sont en concurrence, SpaceX d'Elon Musk pour le lanceur, Astrobotic pour l'atterrisseur. Et avec ce masque, c'est Facebook qui met une roue sur la Lune, hein, puisque c'est la firme de Mark Zuckerberg qui le développe. Le réel enjeu derrière tout ça, c'est la colonisation de la Lune et son exploitation commerciale. Et Daniel Schaffrier en est complètement conscient.
Notre robot sera placé sur un atterrisseur construit à Pittsburgh par une compagnie dont le but est de devenir la poste de la Lune, de délivrer des colis. Et leur premier paquet sera notre robot. Il y aura un jour un gros marché pour envoyer des choses sur la Lune et le cratère où nous avons prévu de nous poser près du lac de la mort deviendra certainement une grande place commerciale avec une base et toutes sortes d'infrastructures.
Vous voyez, vous minez du silicium ou du titane dans une mine lunaire à travers un petit robot. Et bien c'est peut-être ça, la réalité augmentée du futur, et ça fait un peu moins rêver.
Merci beaucoup Axel, une chronique évidemment à réécouter sur le site de la Tête au Carré. On se retrouve lundi prochain.
À lundi.
D'ici là, passez une très bonne semaine. On va parler donc de notre ventre, notre deuxième cerveau, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent en ce moment, avec vos messages, franceinter.fr et les réseaux, le hashtag l'attaque. Bon après-midi avec la Tête au Carré. Life avec le groupe Black sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Notre ventre, son système digestif, sa flore bactérienne, aujourd'hui donc souvent appelée notre deuxième cerveau par les scientifiques qui ne cessent de découvrir ses facultés étonnantes, le rôle essentiel en lien justement avec le cerveau que nous connaissons bien. Pour en parler, donc le chercheur de l'INSERM Michel Neunlist, le pédiatre et chercheur Dominique Darmon et le journaliste scientifique Fabrice Papillon et vos messages donc qui arrivent sur franceinter.fr. Fabrice Papillon, vous avez produit donc un film documentaire qui s'appelle Le ventre, notre deuxième cerveau, qui vient donc de remporter le Grand Prix du Festival international du film scientifique Paris Science, ainsi que plus de deux récompenses. Hein. Vous avez
six
tout
prix,
raflé en fait.
Six prix en six festivals.
Voilà.
On espère que c'est pas terminé.
Ouais, oui, ça va continuer certainement pour vous. Et du coup, vous publiez dans la foulée un livre sur le même thème qui paraît aux éditions Talendier, Arte Éditions avec Héloïse Rambert. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet là au départ
hein? Moi, je vais être très honnête. Ce sujet, je le connaissais pas et je n'y croyais pas trop. Et c'est en fait une discussion avec Hélène Koldefi qui dirige l'unité découverte et connaissance d'Arte, qui est à l'origine du projet de documentaire et surtout de la gestion et de la programmation de cette case science hebdomadaire dans laquelle s'est inscrit le film. C'est une discussion avec elle et avec la réalisatrice, elles en ont parlé d'abord ensemble, donc Cécile Dangean, puis avec nous à Scientifilm, donc la production. C'est vraiment un échange et ça a été une envie qui venait d'abord de la chaîne, en tout cas de comprendre. Et une fois qu'on a commencer à creuser, on s'est tous enflammés, passionnés pour ce sujet.
Alors, le film a déjà été diffusé sur Arte, et donc maintenant, il circule dans les festivals, et on découvre donc dans ce film que Nantes est une ville à la pointe hein, dans ce domaine, justement. Michel Neunlist et Dominique Darmon, vous travaillez donc tous les deux en Loire-Atlantique à Nantes. Michel Neunlist, donc en neuro-gastro-entérologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un petit peu étonnant de voir neuro accolé à gastro-entérologie, non?
Ben, je pense que ces deux termes sont accolés, mais avant d'expliquer pourquoi ils sont accolés ensemble, il faut peut-être repartir de la base, c'est-à-dire de redéfinir à quoi sert le tube digestif. Probablement, on sait que c'est effectivement un organe qui n'est peut-être pas aussi noble que pourrait l'être le cerveau ou le cœur, mais néanmoins, c'est probablement un des organes, si ce n'est l'organe essentiel, à la survie de l'ensemble des organismes. Sans tube digestif, on ne vivrait pas parce qu'on n'arriverait pas à absorber notre nourriture, et en même temps, il nous protège. Donc ces fonctions, effectivement, nutrition par le tube digestif sont assurées par des programmes extrêmement complexes réalisés par notre tube digestif. C'est par exemple la motricité. Il faut qu'il transporte les aliments vers les sites spécialisés d'absorption de ces nutriments. Il faut que ces nutriments, ces aliments soient absorbés. Mais en même temps aussi, il faut que ce tube digestif nous protège de l'agression par des facteurs extérieurs, environnementaux. Et l'ensemble de la régulation de ces fonctions ne peut être faite, régulée que par un système nerveux qui, lui, est finalement est situé au sein même de notre tube digestif. Et sans ce système nerveux, extrêmement complexe, notre tube digestif ne peut pas fonctionner, même si notre cerveau peut effectivement moduler certaines fonctions digestives, il n'en est pas l'acteur principal.
Alors, neurogastro-entérologie, donc du coup, on fait cette association entre quoi ? Le cerveau, les neurones précisément, le système nerveux ?
Il y a une triple association, il y en a même beaucoup plus. Il y a une association effectivement entre les neurones du tube digestif et les différents types cellulaires formés par le tube digestif, qui sont extrêmement variés. Vous avez des cellules musculaires, des cellules immunitaires, des cellules épithéliales, des associations effectivement aussi avec notre cerveau, parce que notre intestin est relié à notre cerveau, soit physiquement, entre guillemets, via le nerf vague, ou aussi d'une manière plutôt indirecte via le sang, c'est-à-dire que le tube digestif est capable de relarguer des substances qui vont passer dans la circulation sanguine et ensuite accéder au cerveau et donc pouvoir ensuite moduler certaines fonctions du système nerveux central.
Dominique Darmon, donc vous êtes pédiatre et chercheur au Centre de recherche en nutrition humaine. Vous, c'est plutôt le ventre du bébé alors qui vous intéresse ou de l'enfant ?
Oui, tout à fait. Dans l'unité de recherche, on s'intéresse plus spécifiquement aux effets, notamment à long terme, des événements précoces sur le plan nutritionnel sur la santé de l'adulte. Donc c'est une notion qui a émergé il n'y a pas très longtemps, il y a moins de deux décennies. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est en contact avec le bébé, à la fois in utero et les deux premières années de la vie, on parle des 1000 premiers jours, entre bien sûr notamment en contact par le tube digestif et va avoir des effets sur de nombreux organes. Et nous, les organes qui nous intéressent, c'est par exemple le tube digestif lui-même et le cerveau. Donc vous voyez qu'on est dans la même thématique, c'est-à-dire le cerveau, l'intestin et les relations entre les deux.
Ouais, donc là, ce sont des moments clés vraiment dans la vie de l'individu, hein, à la fois le stade fœtal et puis les tout premiers jours de l'enfant.
Oui, ce qui a été observé déjà dans les années 90, c'est que, par exemple, le poids de naissance des bébés peut programmer le risque de maladies qui surviennent à l'âge adulte 60 ans plus tard. Il a été montré que les enfants qui naissent avec un faible poids de naissance, 60 ans après, ils ont trois fois plus de risques de diabète, d'obésité.
Donc ça prédispose à certaines maladies ?
Exactement. Donc, le petit poids de naissance vient de la nutrition in utero. Donc ça a amené à la notion d'empreinte nutritionnelle. Bien sûr, l'impact se produit notamment sur le tube digestif.
Ouais, l'empreinte nutritionnelle, voilà, ça c'est un terme aussi très important et qui résume au fond ce que vous venez de définir.
Exactement,
là.
Exactement, oui.
Alors ça veut dire qu'on fait des découvertes assez étonnantes depuis peu de temps. Ça veut dire quoi ? On découvre notre ventre vraiment, Michel Nenlist ?
Je pense que le rôle central du ventre dans notre santé, c'est quelque chose qui est connu depuis des milliers d'années à travers toutes les civilisations, comme finalement le traduit aussi bien le film. Néanmoins, ce dont on a actuellement à disposition, qui permettent de mieux comprendre, c'est le développement de la technologie. Donc on a maintenant, et c'est comme ça que la science a progressé au cours des différents siècles, finalement, on a maintenant les outils qui nous permettent finalement de mieux comprendre ces différentes phases critiques de la vie, de comprendre comment le microbiote peut impacter sur notre santé.
Ouais.
Et donc c'est vraiment ceci qui est à la base de ces progrès techniques et de ces progrès scientifiques.
Donc c'est toute une exploration à faire aujourd'hui, hein, pour vous. C'est un champ très vaste.
Oui, il faut voir que si on parle du microbiote, enfin, je ferai remarquer que ni Michel Nenlist ni moi, on est microbiologiste. Hein. Donc on a une vision peut-être plus extérieure, mais on a vu sur les conséquences physiologiques de ce microbiote. C'est qu'on a en fait beaucoup plus de bactéries dans notre organisme que de cellules humaines. Donc on pourrait dire même qu'on est minoritaire dans notre propre organisme.
Ça veut dire combien de bactéries exactement ? On est en milliards, là, largement.
100 000 milliards.
100 000 milliards de bactéries.
10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules constituant notre corps humain.
Ouais.
Et donc, ce qui est passionnant, c'est que ça fait beaucoup plus de gènes que les gènes humains, puisqu'on a à peine entre 20 et 30 000 gènes. Hein, je crois. Et là, on est au niveau de millions de gènes. Et c'est un territoire complètement inconnu, enfin pas complètement, mais auquel on a accès que depuis moins de 10 ans.
On le découvre, en tout cas, et il y a beaucoup de choses passionnantes à découvrir. C'est l'objet de ce film dont voici un premier extrait, donc Le ventre, notre deuxième cerveau.
100 000 milliards de bactéries habitent notre tube digestif. Il y a 1000 fois plus de bactéries dans chacun de nous que d'étoiles dans notre galaxie.
Je suis un être humain et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème.
Voilà, ça c'est la voix du biologiste Pierre-Henri
Gouillon. Qui est un formidable scientifique qu'on sollicite beaucoup dans nos documentaires, en plus d'être un véritable ami, qui a beaucoup d'idées, qui fait partie de ces scientifiques qui font avancer la connaissance, pas seulement scientifique, mais celle du grand public, en élargissant le sujet, en partant d'un sujet technique et en essayant de le porter d'un point de vue quasiment philosophique et existentiel.
Voilà, donc il y a ce chiffre très marquant, 100 000 milliards de bactéries. Ça pèse combien, ça, Michel Neunlist, si on le met comme ça sur la balance? On en a quand même pas mal. Hein,
ça fait à peu près 1 à 2 kilos.
Eh oui, quand même. Donc c'est quasiment un organe, au fond, du corps humain. On peut faire le parallèle ou pas?
Je pense que ça peut être un organe, effectivement, parce qu'il y a un des éléments qui montre que c'est bien un organe. Il est capable de produire des métabolites qui permettent d'une part aux bactéries de dialoguer entre elles, donc de réguler leur composition, mais surtout, en ce qui nous concerne pour notre santé, d'envoyer ces messages vers notre corps humain et ainsi impacter sur notre santé, mais probablement aussi, malheureusement, être participé au développement de maladies.
Oui.
Telles que, vous l'avez cité, telles que l'obésité, les maladies inflammatoires digestives, voire des maladies neurodéveloppementales, psychiatriques.
Ouais, donc là aussi, il y a beaucoup de découvertes à faire dans ce domaine. Dominique Darmon, donc quand on parle de ces milliards de bactéries, est-ce qu'on parle bien de la flore intestinale? Est-ce qu'on parle bien du microbiote? Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou pas?
Alors le microbiote, c'est la façon scientifique, disons, de désigner la flore intestinale. Voilà. Mais on parle essentiellement des bactéries.
Donc il s'agit bien de la même chose.
Mais il y a aussi, effectivement, il n'y a pas que les bactéries qui font partie de ce microbiote. Il y a aussi les virus, si on veut être plus précis.
Voilà.
Il y a aussi
ça, c'est l'écosystème dont parlait, au fond, Pierre-Henri Gouillon.
Tout cet environnement. On connaît aussi, je pense que c'est un point important, on connaît pour l'instant que un peu le rôle des bactéries, mais il ne faut pas oublier le rôle des virus qui peuvent être bénéfiques, qui contrôlent aussi les bactéries et éventuellement de certains champignons.
Le rôle bénéfique, vous dites.
De certains virus qui pourraient agir aussi sur la population bactérienne.
Exactement.
Moduler cette population.
Larry sur franceinter.fr nous dit ceci: cette simple expression « deuxième cerveau » m'oblige à vous formuler deux questions. Y a-t-il d'autres cerveaux et lesquels? Il y en a au moins un qu'on connaît bien, évidemment. Et puis pourquoi réduire au cerveau le système nerveux? Alors, qui veut répondre? Michel Neunlist. Donc, le premier cerveau, c'est celui évidemment qu'on connaît tous.
Il y a ce deuxième cerveau qui est en train d'émerger finalement, qui est situé dans le tube digestif, mais on sait qu'il y a d'autres organes de notre corps qui contiennent aussi des neurones.
Ouais.
Donc pour être considéré comme un cerveau, effectivement, il faut qu'il remplisse ces neurones certaines fonctions, il faut qu'il soit capable de détecter les modifications environnementales, qu'ils initient un programme moteur et qu'ensuite qu'ils arrêtent ce programme moteur. Et à ce titre-là, le tube digestif ou le système nerveux qui est contenu dans le tube digestif répond à tous ces critères et forme un cerveau à part entière.
Ouais. Et ces deux cerveaux, alors, est-ce qu'ils se ressemblent beaucoup? Est-ce qu'ils ont énormément de points communs dans la forme, dans leur composition?
Je pense que c'est probablement, il faut rester modeste. Il faut dire que c'est un cerveau qui est assez simple. Néanmoins, les constituants du système nerveux entérique et ceux du cerveau sont identiques. On a des neurones, on a des astrocytes.
Mmh.
C'est un élément qui rendait Einstein aussi intelligent. C'est pas parce qu'il y avait plus de neurones, mais probablement parce qu'il y avait plus d'astrocytes.
Oui.
Aussi, ce qui, à mon avis, est extrêmement important, ce qui associe ces deux organes, c'est qu'ils ont les mêmes neuromédiateurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent le même langage. Les médiateurs qu'utilisent les neurones du cerveau pour communiquer entre eux sont identiques à ceux qu'utilise le cerveau du bas pour communiquer entre eux.
Et Dominique Darmon, on l'expliquait tout à l'heure, donc il y a un lien direct, en fait, il y a une communication entre ces deux cerveaux en permanence.
Oui, tout à fait, parce que par exemple, le cerveau doit être informé de ce qui se passe dans le tube digestif. Mmh. Une des conséquences évidentes, c'est la régulation de notre appétit, parce que on mange avec son cerveau du haut, enfin le premier cerveau,
oui,
qui nous donne faim, envie de manger, pour des raisons diverses et variées, qui ont un rapport en partie avec les besoins nutritionnels et aussi en partie avec des raisons psycho-affectives et autres. Oui. Donc il y a une communication permanente et c'est dans les deux sens, puisque le cerveau influe aussi sur les fonctions digestives. Alors, comme l'a dit Michel, la communication se fait notamment par le nerf vague, qui est l'autoroute de communication entre l'intestin,
voilà,
et le cerveau.
Et puis, il y a des petits chemins plus discrets, mais qui sont aussi très efficaces, hein, entre ces deux cerveaux. Michel Nendlist,
c'est ce qu'on disait. Donc, il y a effectivement une communication très rapide, médiée par voie nerveuse, directe. Et ensuite, une communication un peu plus discrète, médiée par des voies humorales, où, par exemple, la sérotonine ou certains acides aminés, le tryptophane, peuvent être libérés par la peau de l'intestin. Et comme ça, cheminer progressivement via la voie sanguine vers notre cerveau. Et là, moduler aussi certaines fonctions du système nerveux central.
Jean-Paul demande, toujours sur franceinter.fr, est-ce qu'on a des idées sur la genèse des cellules nerveuses et de leur organisation dans l'histoire de l'évolution ? Ce n'est pas étonnant, dit Jean-Paul, que très tôt dans l'évolution des espèces animales, des petites structures nerveuses apparaissent pour gérer l'alimentation. Alors revenons à la source, là, vraiment.
La source, c'est comme ça qu'on l'a un peu dénommé aussi dans le film. On considère ce cerveau un peu comme le cerveau originel. Pourquoi ? Parce que les organismes primitifs, dont on a encore des exemples actuels, que sont par exemple les anémones de mer ou les méduses, sont principalement des organes digestifs, ne sont pas très complexes et possèdent déjà dans leur structure quelques neurones. Donc après, il y a une théorie qui suggère qu'il y a une évolution finalement parallèle entre notre tube digestif et ses cerveaux. C'est-à-dire que lorsque les organismes ont eu besoin de chercher cette fois-ci la nourriture,
ouais,
des fonctions cognitives ont été nécessaires de se mettre en place, telles que finalement l'apprentissage, la peur, les circuits de la mémoire, de la récompense. Et que ces circuits sont développés dans le cerveau une fois que ces organismes ont besoin de chercher leur nourriture.
Ouais.
Puis après, ce qui est aussi repris à mon avis dans le livre, c'est lorsque les modes de cuisson se sont améliorés, qu'on était capable d'extraire plus d'énergie finalement de la nourriture, ça a permis finalement à passer moins de temps à chasser, à chercher sa nourriture, et donc le cerveau a subi une deuxième évolution qui a permis d'atteindre, de se développer des zones comme le néocortex ou des zones beaucoup plus complexes, associé avec des processus cognitifs extrêmement complexes.
Et donc ça a permis à notre cerveau de se libérer de certaines tâches, donc que notre ventre a pu prendre en relais, en fait, c'est ça.
Exactement, exactement.
Il y a eu une externalisation des tâches.
Il y a une sorte de décentralisation aussi efficace.
Ouais. Donc,
c'est-à-dire, c'est un exemple de décentralisation qui fonctionne bien, proche du territoire.
Absolument.
Ou délocalisation, c'est négatif.
Dominique Darmon, en 2011, des chercheurs ont séquencé l'ensemble des gènes des bactéries hébergées justement par le tube digestif humain, et ils ont montré que comme les groupes sanguins, il existe différentes signatures bactériennes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, là encore, le point de vue un peu extérieur d'un nutritionniste, oui, pédiatre. Je dirais que c'est très excitant comme découverte, dans la mesure où il y a on peut imaginer que l'analogie avec des groupes sanguins, il faut quand même relativiser l'impact. Il faut rappeler que ça a été fait sur un petit nombre de sujets, hein, sur 22 sujets.
Voilà, c'est ça, même pas une trentaine.
Sujets, hein, voilà, ouais. Moins d'une trentaine de sujets. L'aspect tout à fait extraordinaire, c'est que ça a été fait sur des sujets de pays très différents. Donc, ça serait des groupes qui transgresseraient les frontières, voire même les apports nutritionnels ou les habitudes alimentaires de ces pays et de ces cultures. Mais il faut rester prudent parce que on n'est qu'au début de l'exploration. Quel est l'impact de ces groupes ? Il faut avoir plutôt l'idée qu'on a comme des empreintes digitales, c'est-à-dire que chacun a un microbiote qui lui est propre, qui va probablement conserver toute sa vie. On a une résilience du microbiote, des différentes espèces qui vivent dans cette espèce de consortium gigantesque. Et on essaye de les classé, mais pour l'instant c'est une proposition qui est.
Mais il n'aurait découvert que trois différentes signatures, en fait, c'est ça pour l'instant ?
Voilà, alors ces trois signatures correspondent à trois ensembles de bactéries.
Hein. Oui.
Mais je dirais qu'il faut rester prudent parce que pour l'instant on ne peut pas forcément prédire le devenir de ces groupes.
Ouais. Mais l'intérêt d'avoir de telles signatures, ce serait quoi par exemple ? En extrapolant un petit peu ce qu'on pourrait en faire ?
si on arrive à déterminer des associations de pathologies avec ces groupes, on pourrait avoir ce qu'on a appelé une partie de la médecine prédictive, c'est-à-dire ou personnalisée, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de prédire le risque d'une personne de développer telle ou telle maladie.
En regardant dans nos selles.
Alors pour c'est l'instant, c'est un peu prématuré d'en parler, à mon avis.
Bon, mais vous prenez des précautions, mais c'est intéressant de dire
comme voie de découverte. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les messages arrivent sur franceinter.fr et sur la TACFI.
When I have rencontred you, you was a jeune fille au père. And I put a spell on you, and you roll a bell to me. Together we go partout, on my mob, it was super. It was Friday on my mind, it was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You was really beautiful in the middle of the fool. Don't let me misunderstood. Don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow. You are belle and I are beau. You give me all what you have. I say thank you, you are bien brave. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. Love very beaucoup. To have a mass of children, just like Stone and Chardin. But one day that must arrive. Together we disputed for a stupid story of freak. We decided to divorce. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, qu'I am you, qu'I am you. You chialed comme une madeleine, not me, I have my dignity. You tell me you are a sale mec, I tell you, poil to the bec. That's comme ça, that you thank me, to have learning you English. That's not you qui m'a appris. My grandfather was a roast beef. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, qu'I am you, qu'I am you. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, qu'I am you, qu'I am you.
Voilà la version d'Émilie Loiseau en hommage à Renaud, la bande à Renaud 2 qui sort aujourd'hui et sur cet album. Donc, It is not because you are. Le ventre, notre deuxième cerveau. C'est un documentaire, c'est également un livre aux éditions Talendier avec Arte Éditions. Et Fabrice Papillon, journaliste scientifique, Dominique Darmon, pédiatre, et Michel Nenlist, chercheur à l'INSERM, sont nos invités. Beaucoup de messages, franceinter.fr. Franck nous envoie ce message, Dominique Darmon, justement pour évoquer ces trois groupes différents dont on parlait il y a quelques instants, trois groupes différents. Donc de bactéries. Est-ce que ces nouvelles découvertes, demande Franck, sur le microbiote intestinal ne vont pas remettre en cause un certain nombre de certitudes, comme par exemple le fait qu'il y aurait un régime alimentaire qui serait bon pour tout le monde ou des médicaments qui seraient efficaces pour tout le monde ?
Effectivement, c'est des implications à long terme, je dirais. Il reste à... Donc si on arrive à confirmer sur une grande population que ces entérotypes sont vraiment...
Entérotypes, donc, c'est ces signatures,
des signatures bactériennes particulières à un individu. Si ces découvertes sont confirmées sur une plus grande population et que les associations avec des pathologies sont confirmées, effectivement, ouais. On pourrait penser que l'alimentation devrait être modulée pour s'adapter à cet entérotype. Ce qu'il faut voir, c'est que les bactéries ont donc un équipement d'enzymes qui digèrent des aliments que notre organisme n'est pas capable de digérer. Mmh. Donc, la notion principale à retenir, c'est que quand on se nourrit, et qui est un peu nouvelle, quand on se nourrit, on ne nourrit pas seulement l'organisme humain, les cellules humaines, on nourrit également des bactéries. Oui. Et on peut comprendre que si on a des habitants différents à l'intérieur, peut-être qu'il faut adapter aux convives le menu. Ouais. Mais je dirais que pour l'instant, on en est vraiment au tout début, parce qu'on ignore quelle est la poule, quelle est l'œuf. Est-ce que c'est
l'alimentation
qui conditionne la flore ou la flore qui doit conditionner
notre
alimentation.
Mais ça, c'est passionnant, parce que quand même, l'alimentation, c'est le premier carburant qu'on met dans notre organisme tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc.
Et on remarque quand même, si vous voulez le confirmer, que dans ces différentes signatures, ces différents entérotypes, la dominance, on va dire, tient vraiment à un régime alimentaire particulier. Par exemple, un entérotype est plutôt marqué par plus de viande, un régime, on va dire, carnivore. Un autre, plutôt, on va dire, plus de légumes et de fibres. Mm-hmm. Est-ce que vraiment on peut séparer, entre guillemets, les signatures de cette manière?
Je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention à pas trop simplifier, à mon avis, comme les choses, comme le dit Dominique. Il y a peut-être aussi une autre façon d'aborder la fonctionnalité de ce microbiote, c'est plus de le prendre dans sa diversité. On passe finalement d'une approche réductionniste.
Mais oui, mais c'est sûr qu'on aurait envie d'avoir des menus, des cartes précises. Je comprends, mais il faut faire attention à ce qu'on dit.
En revanche, ce qui semble être assez le cas, c'est que finalement, c'est peut-être vrai pour toutes les choses à société, c'est lorsqu'on devient malade, c'est qu'on perd notre diversité de la flore, de cette capacité finalement à s'adapter à toutes ces modifications environnementales. Mmh. Si cette diversité est perdue, c'est là qu'on devient malade. Et on se rend compte qu'effectivement, dans les maladies inflammatoires intestinales, dans l'obésité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une perte de diversité. Et plus cette perte de diversité est importante, moins probablement ils vont être capables de répondre à différentes interventions thérapeutiques. Donc c'est vraiment la diversité qui est, à mon avis, un élément fondamental des maladies, la perte de diversité des maladies et la diversité, un élément central de la santé.
Lionel, sur Twitter, demande si le tube digestif possède un cerveau, puisqu'il possède un cerveau. Est-ce qu'il est atteint lui aussi par des maladies neurodégénératives? C'est vrai qu'on a envie de se poser la question.
Effectivement, et je pense que ça, c'est un autre élément qui renforce finalement la similitude entre nos deux cerveaux. Malgré tout, il faut rester assez prudent sur ce parallélisme. Est-ce qu'on l'étend à toutes les maladies ou à certaines maladies spécifiques?
Comme Parkinson, par exemple, qui fait l'objet d'études assez poussées dans ce domaine.
C'est effectivement des études qui ont été développées beaucoup à Nantes, initiées en particulier par l'équipe du professeur Derkinderen dans notre unité, qui a pu montrer qu'il existait le même type d'atteinte dans le système nerveux digestif que celle existant dans le système nerveux central. Donc on voit les mêmes marqueurs de lésions dans le tube digestif que dans le cerveau. Et là où ça devient intéressant, ce type d'étude, c'est que ça pourrait être des marqueurs, une source de marqueurs prédictifs d'évolution de la maladie.
Plusieurs années avant,
parce que ces patients, parmi les symptômes qu'ils ont, certains, ont effectivement des troubles de la motricité.
Il semble que ça commence donc dans le ventre, avant que de migrer vers le cerveau.
Ça, c'est une autre hypothèse, effectivement, qui reste aussi à être prouvée, qui a été validée ces dernières années dans des modèles animaux expérimentaux, où il y aurait une sorte de progression de la lésion des centres périphériques, en particulier digestifs, vers le cerveau, un peu comme les maladies de prion. Donc on revisite aussi, en étudiant le tube digestif, les neurosciences et bien sûr d'autres disciplines.
Allez, encore une question d'auditeur avant d'écouter un nouvel extrait du film. Dominique Darmon, Alice nous dit ceci. Quelles conséquences à long terme peuvent avoir les opérations de chirurgie bariatrique qui sont de plus en plus pratiquées sur la santé? Quels peuvent être les effets de telles modifications de l'appareil digestif? Donc c'est quand on coupe par exemple un morceau d'intestin, c'est ça?
Alors il y a plusieurs types de chirurgie bariatrique. Ça serait long de les détailler, parce qu'il y a des types de chirurgie où on rétrécit simplement la taille de l'estomac, soit par un anneau, soit en rétrécissant le calibre de l'estomac, soit en faisant un court-circuit digestif. Mmh. Alors je pense que l'auditrice fait allusion plutôt à ce type de pathologie, de chirurgie, qui peut avoir des conséquences. Pourquoi ? Parce que si on raccourcit le circuit digestif, des aliments qui normalement devraient apparaître dans l'intestin grêle atteignent plus vite le gros intestin, le côlon, qui est peuplé par ces milliards de bactéries. Donc, il y a des conséquences d'une part dues au fait qu'on court-circuite une partie de l'intestin, et l'intestin, c'est un monde qui produit, par exemple, non seulement qui a non seulement des neurones, mais également des sécrétions endocrines, c'est-à-dire des hormones. Donc on modifie la sécrétion d'hormones, on modifie évidemment la motricité, et on va modifier le microbiote, qui par lui-même va avoir des effets importants.
Oui. Donc il y a toute une suite d'effets.
Voilà. Alors on sait que la chirurgie bariatrique est assez efficace dans des cas extrêmement graves d'obésité qui représentent une très petite minorité des obésités. C'est quelques pourcentages. Ça marche très bien, mais on ne sait pas exactement comment ça marche. Et le microbiote pourrait intervenir. Il y a des données qui font penser que les modifications du microbiote pourraient avoir un effet bénéfique dans les effets de cette chirurgie.
Il se pourrait également que nos émotions aient un lien direct avec notre ventre, en tout cas chez la souris. Hein. L'expérience le montre. Voici pour en parler un extrait du documentaire Le ventre, notre deuxième cerveau.
Mais lorsqu'on invoque la volonté, cela veut-il forcément dire que nous sommes les seuls à décider? Notre cerveau règne-t-il en maître sur notre personnalité? Ou bien est-il sous influence? C'est ici, dans le laboratoire ultra-stérile de Stephen Collins, que se trouve peut-être la réponse.
Une souris stérile sans aucune bactérie se comporte de façon très étrange. Elle prend des risques, elle est presque irresponsable. Quand vous mettez des bactéries dans le ventre de ces souris, leur comportement change. Elles ne prennent plus autant de risques. Elles deviennent très prudentes. Peut-être que les bactéries disent « Nous voulons survivre, donc vous avez intérêt à bien vous comporter. »
Michel Nenlist, nos émotions régulées par le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ces petites souris exactement ?
Voire plus particulièrement par nos bactéries, pour être précis. Donc, ce qui a été fait, il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement menés justement dans ce domaine de recherche, parce que c'est vrai que c'est assez stupéfiant de savoir que nos bactéries sont capables de contrôler nos émotions. Alors, il faut être prudent, ce n'est pas les bactéries qui nous contrôlent, ils peuvent moduler nos émotions. Donc, je pense que c'est un élément important à préciser dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'il a été démontré ? C'est que différentes expériences ont permis de montrer que lorsqu'on transfère la flore, c'est-à-dire qu'on fait une greffe de flore
d'un animal
anxieux à un animal calme, cet animal calme devient anxieux. Et de la même façon, lorsqu'on transfère la flore d'un animal anxieux, énervé à un animal calme, il devient anxieux. Donc ça montre bien qu'il y a dans la flore la possibilité des bactéries qui sont capables d'influencer nos émotions, probablement en produisant des substances qui vont réguler la production de certaines substances, elles aussi, dans le cerveau, dans les zones qui gèrent les émotions, dans les zones qui gèrent le plaisir. Donc on a une vraie possibilité.
Alors, sauf que qu'est-ce qui, à la base, précisément, fait que nos bactéries provoquent de l'anxiété ou du calme ? Est-ce qu'on connaît tout le cheminement là aussi ?
Non, on ne connaît pas. C'est à nouveau, on est tout au début. Je pense que c'est depuis le début de l'émission. Il est important de préciser que tout ce qui vient d'être discuté sont des données qui sont issues de la recherche de ces deux, trois dernières
années.
Mais
on est pressé, on a envie d'en savoir plus.
Non, mais justement, je pense qu'on est des faux des chercheurs. C'était tout de suite de dire voilà, c'est ça la solution. Et au contraire, il faut donner un peu le temps au temps.
Oui, mais c'est troublant quand même.
C'est tout à fait troublant. Et ce qui est aussi intéressant, je pense, dans ce genre d'explication, et on en revient à ce qu'a dit Steve Collins dans le petit extrait, c'est lorsqu'on transfère la flore d'une souris normale à un animal, on est capable de changer son comportement. Mais surtout, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a des périodes très précises de la vie, en particulier durant la période postnatale, où ce transfert de flore est capable de réguler l'anxiété. Mais après, lorsqu'on le transfère plus tard, les effets bénéfiques ne sont plus là.
Fabrice Papillon.
Ce qui nous a passionné dans le livre et dans le film, c'est cette forme de réconciliation entre la médecine occidentale, rationnelle, celle qui commence à découvrir de manière assez pointue, mais comme le rappelle Michel, c'est encore le début, la manière dont fonctionne ce deuxième cerveau, et ce que la médecine orientale ou chinoise, pour être plus précis, et d'autres thérapies liées à la médecine chinoise, comme le shiatsu, des techniques respiratoires et bien d'autres, ont, semble-t-il, déjà démontré depuis des décennies, des siècles, voire des millénaires, c'est-à-dire qu'en agissant sur le ventre, avec des thérapies bien ciblées, y compris l'acupuncture, on pouvait avoir des effets qu'on est en train d'identifier aujourd'hui par la médecine occidentale. Il y a donc une forme de réconciliation qui est assez passionnante dans ce sujet.
Viron sur franceinter.fr demande si d'autres mammifères que l'homme possèdent ce même deuxième cerveau. On peut imaginer que oui, non ?
Tous les mammifères le possèdent, oui.
Dominique Darmone, les enfants, les petits, les tout-petits, voire même le fœtus, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'importance justement de la flore intestinale, donc de ce microbiote et de la façon dont ça va agir ensuite sur l'enfant, sur la personne ?
Alors ce qu'on sait, c'est que la période périnatale, c'est une fenêtre ouverte assez unique, une fenêtre de tir particulière, puisque classiquement, on pense que l'intestin naît stérile. C'est-à-dire que c'est le Far West, il n'y a rien. Et puis les bactéries, alors il faut savoir qu'on hérite quand même son microbiote de sa mère, oui. En grande partie. Mm-hmm. Alors si on est par césarienne, par exemple, on n'a pas le microbiote de sa maman, on a le microbiote de l'infirmière, enfin de l'environnement hospitalier.
Ah bon, mais c'est terrible. Ce que vous dites.
De la peau. Bon, alors, c'est une période où il y a une colonisation qui va se produire et qui est unique dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'à 2-3 ans, le microbiote est adulte. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est ensuite relativement inamovible.
D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il va être colonisé en fait, pendant les 3 premières années.
Et ensuite, il y a une résilience. C'est-à-dire que si on prend des antibiotiques quand on est adulte, on abîme sa flore, mais on va la reconstituer quasiment à l'identique.
Et si on prend des antibiotiques quand on est bébé, qu'est-ce qui se passe
C'est une très bonne question. Alors, c'est un sujet de débat. Là, je peux vous dire qu'il paraît à peu près un article tous les mois là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a accusé les antibiotiques en période périnatale de causer tout un tas de dommages à long terme, notamment l'obésité, l'asthme, la maladie cœliaque, enfin, des maladies digestives, etc. Ouais. En fait, on a des données épidémiologiques et il faut bien voir que c'est des coïncidences, des coexistences qu'on essaye de rapporter à des origines précoces des maladies. Et ça, c'est un sujet qu'on rencontre de plus en plus dans le domaine qui nous est propre, c'est-à-dire que on a des données épidémiologiques qui sont un peu des vues d'avion, on voit des choses qui sont reliées, mais quel est le chemin entre les deux ? Ben on ne sait pas. Et ouais. Notre boulot de chercheur, c'est d'étudier les mécanismes.
Mais il y a des hypothèses, en tout cas.
Il y a
hein,
des hypothèses.
Clair. Quelles sont-elles
Alors, bon, les hypothèses sont que, par exemple, on pourrait imaginer, pour prendre l'exemple des antibiotiques, que les antibiotiques agissent en formatant la flore, donnant des mauvaises ou des bonnes bactéries qui vont persister la vie durant et donner des effets à l'âge adulte. Un autre mécanisme pourrait être des effets épigénétiques des antibiotiques. Épigénétique, me résume, c'est en fait des effets non pas sur la structure des gènes, mais sur leur emballage, qui modifie l'expression des gènes. Donc, comme des médicaments, tout médicament, les antibiotiques pourraient avoir des effets directs qui modifient des gènes, par exemple le gène qui détermine la façon dont on va accumuler la graisse.
Donc, concrètement, les antibiotiques, par exemple, sur un bébé, transforment sa flore intestinale avec des conséquences pour la suite des choses.
C'est une théorie. Il y a très peu de données dures. Il y a des données épidémiologiques. Pour les mécanismes, on en est au début. Et il ne faut pas oublier que les antibiotiques sauvent des milliers et des millions de vies humaines. Mmh. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire. Hein, les antibiotiques sauvent des milliers de bébés. Et si beaucoup de bébés reçoivent des antibiotiques, c'est parce qu'ils en ont besoin. Est-ce qu'il faut les laisser mourir sous le prétexte que, hypothétiquement, 60 ans plus tard, ils seraient un peu plus gros ? Évidemment, non. Il faut chercher pourquoi, comment ouais. Ça agisse.
Alors, malheureusement, il nous reste 30 secondes. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas parlé des probiotiques, Michel Nonlist. Il y aurait eu des choses aussi à dire sur la question, hein, qu'on a connue d'ailleurs, popularisée par la publicité, dont on a dit que dans certains yaourts, on ajoutait des probiotiques pour qu'on soit en meilleure santé intestinale. Un mot là-dessus avant de se quitter, très vite ?
Ben, un mot, un probiotique, c'est un élément du microbiote intestinal, c'est un acteur parmi d'autres, donc c'est une bactérie. Donc probablement, vu de la diversité des effets des bactéries, les probiotiques sont probablement un élément important dans la santé, mais beaucoup de choses restent encore à déterminer.
Dominique Darmone, très très vite.
Oui, si je peux me permettre d'inviter tout le monde à Nantes, le 6 et 7 novembre, nous avons un congrès de la Société française des origines développementales des maladies. C'est un nom compliqué, mais en fait, c'est ce dont on vient de parler.
Absolument.
L'empreinte nutritionnelle, les conséquences à long terme des apports, la douane.
6 et 7 novembre, et les liens sont sur le site de la Tête au Carré.
J'espère sur le site.
Mais bien sûr, c'est déjà fait. Merci, ne m'inquiétez pas. Bon retour à Nantes. À tous les deux. Merci Fabrice Papillon. Merci. Le ventre, notre deuxième cerveau, outre donc le documentaire, c'est un livre chez Talendier et aux éditions Arte. Merci infiniment. Et dans un instant, le quiz scientifique pour redémarrer la semaine avec Florence Porcel. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. I went away 4 months until
till our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, don't fuck with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and we're missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't fuck with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same fucking hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't fuck with my love.
Don't, Ed Sheeran à l'instant sur France Inter. De nouvelles questions avec le quiz scientifique de la Tête au Carré et bien sûr Florence Porcel à mes côtés. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Vous nous présentez nos nouveaux candidats aujourd'hui.
Avec joie. Bonjour Julie, bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Julie, bienvenue. Vous habitez à Moustier-Sainte-Marie, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Et je découvre que vous êtes éleveuse de chèvres.
Oui, éleveuse de chèvres futures fromagères. On commence à fabriquer des fromages au printemps de l'année prochaine.
Super. Oh. Combien vous avez de bêtes autour de vous?
Alors, pour l'instant, nous avons 34 petites chevrettes, 2 boucs, 2 vaches et une génisse.
Très bien. Bah, j'ai vu que la chèvre belle, ça on le sait, mais qu'elle elle bégaye aussi, c'est vrai ça?
Bah, vous me la prenez.
Ah ben voilà. Voilà. On peut le dire aussi. Donc vous avez beaucoup de jeunes femelles peut-être qui bégayent autour de vous.
Oui, étant donné que c'est la période des chaleurs, elles bégayent beaucoup.
Voilà. Maxime est à Paris. Je doute qu'il ait autant de chèvres que vous auprès de lui. Bonjour Maxime.
C'est pas dit. Hein.
Non.
C'est pas
dit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime?
Tapissier.
Et donc, vous allez jouer ensemble pour répondre au maximum de questions et peut-être remporter, Florence, la boîte de jeu de la Tête au Carré.
Boîte de jeu de la Tête au Carré des éditions Marabout, bien sûr. Et on rajoutera le livre Safari dans la bouse aux éditions de Lachaud et Niesley.
Voilà, une histoire de coprophage. On vous en parlera peut-être tout à l'heure. Allez, c'est parti. On démarre, Julie et Maxime, par la question d'actualité. Selon une étude récente de l'IRD, c'est l'Institut français de recherche pour le développement, 1,5 million d'animaux marins meurent chaque année suite à une cause liée à l'activité humaine. À cause de quoi précisément ces animaux disparaissent-ils? Vous avez
du réchauffement climatique.
Alors Maxime, vous avez donné la bonne réponse avant même que nous lancions le chrono. Et c'est hélas le plastique qui pose beaucoup de problèmes dans les océans, Florence.
Ben oui, des albatros, des cachalots, des poissons, des tortues, ce sont autant d'exemples d'animaux victimes du plastique qui se trouvent dans nos océans et qui se regroupent dans des zones gigantesques qu'on appelle des continents. Le plus important se trouvant dans le Pacifique Nord, il a la taille de 7 fois la France quand même, et grossit de 80 000 km² par an, selon l'IRD. Alors les animaux meurent par ingestion de plastique ou par enchevêtrement.
Donc c'est une étude qui est parue récemment et signée donc de chercheurs de l'IRD, ce qui vaut 10 points.
10 points pour Maxime.
À Maxime. Les questions de rapidité, elles sont au nombre de 7. Nous allons bien sûr vous les poser tout de suite. Vous pouvez passer à la question suivante. N'hésitez pas à nous le demander si vous n'avez pas la réponse. 1 minute 30 dans un ordre croissant de difficulté. Le chrono est prêt, Julie et Maxime. Et si vous l'êtes également, eh bien nous pouvons démarrer. C'est parti.
Tout à fait.
Comment s'appelle le symbole entre le nom et le nom de domaine dans les adresses mail ?
Arrobas,
Julie, tout simplement. Parmi les sept merveilles du monde, laquelle existe toujours ?
Les pyramides de Gizeh ?
Oui,
ouais. Alors, ce n'est pas celle de Gizeh, mais vous êtes vraiment sur la bonne piste.
Les pyramides du Caire, je ne sais pas comment elles s'appellent.
Bon, allez, on va passer à la troisième question, mais vous êtes presque avec la réponse. Quelle femme, actuellement présidente d'Universcience, est à ce jour la seule Française à être allée dans l'espace ?
Elle était ministre.
Elle était ministre de la Recherche, absolument. Oui. Pardon, Maxime ?
Claudie,
quelque chose. Bon, on va passer à la question suivante.
Claudie
Aigneret, Maxime, bonne réponse. Comment s'appelle la faille géologique qui passe par San Francisco et Los Angeles ?
Ah, c'est.
Et j'ai failli vous donner la réponse. La faille de San Andrea, bonne réponse, Maxime. Quel est le nom savant des vrais jumeaux ?
Oh, c'est jumeaux.
Julie, est-ce que vous avez une idée ?
Non.
Allez, sixième question. Le mâle de quel oiseau vivant en Antarctique couve l'œuf pendant que la femelle part pêcher ?
Le manchot empereur.
Oui. Comment s'appelle la structure qui joue le rôle de centrale énergétique à l'intérieur de chaque cellule humaine ? C'est vrai, c'est une petite usine.
Mitochondrie,
Julie, bonne réponse. Allez, on revient à la deuxième question. Parmi les sept merveilles du monde, laquelle existe toujours cette pyramide ?
C'était la pyramide de Khéops.
Voilà, Julie, vous y étiez presque, mais il s'agissait de Khéops. Je ne pouvais pas vous donner la bonne réponse, parce que c'est quand même une des sept merveilles du monde. Donc, c'était très délicat de ne pas être sur la bonne pyramide. Et puis, nous restait le nom savant des vrais jumeaux, Florence.
Oui, il s'agissait des jumeaux monozygotes.
Voilà, qui partagent le même patrimoine génétique. Alors, on fait le calcul des points sur Claudie Aigneret. On va vous donner...
On donne les points aux deux. Hein.
Exactement, puisque vous avez bien complété ensemble la réponse. Ce qui nous fait au total...
Ce qui nous fait une égalité. 20 points partout pour le moment jusqu'ici.
Donc, tout est possible.
Voilà, tout est possible encore.
Avec le mot mystère. Julie, on va commencer avec vous, si vous êtes d'accord.
Okay.
Vous avez 45 secondes pour faire découvrir le mot mystère que vous avez sous les yeux à Maxime. Et nous lançons le chrono, c'est parti.
Alors il s'agit d'un raccourci pour le nom d'une machine qui génère de l'électricité en convertissant le mouvement en énergie électrique. Et on utilise aussi ce mot pour appeler l'alternateur qu'on fixe sur la roue d'une bicyclette pour faire de la lumière sans user de piles.
La dynamo, bien sûr. Et on apprécie les définitions formidables de Julie, grande spécialiste de la dynamo, qui vient de nous le prouver. Bravo, en tout cas, ça rapporte 10 points à Maxime. Alors là, il va falloir vous départager. On va voir ce qui se passe. Il y aura peut-être une question subsidiaire.
Peut-être.
Maxime, c'est à vous. Vous avez 45 secondes pour faire découvrir le beau mystère. C'est parti.
Alors, moyen de transport aérien plus léger clair, associé à l'un des plus grands groupes de rock. Ça donne une idée.
Ça donne une idée, mais ça n'est pas suffisant.
Alors, il y a eu un gros crash dans les années beaucoup utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai. De grande taille, d'ailleurs. Hein, c'était des engins.
Un peu de ruche.
Des engins de très, très grande taille.
Vous m'avez fait penser au groupe de rock. Maintenant, je pense que à Anna Gintantich Louvre Balance, j'arrive plus à
Non, non, pas non, du non. tout, Julie. Concentrez-vous, attention, car le chronophile...
Un engin à aérien.
Ah, mais on y est presque.
C'est un dirigeable.
Ah oui, bravo.
Bravo.
Sur le fil, bonne réponse, effectivement, pour le dirigeable, Julie. Donc, nous sommes à égalité.
Oui.
Il va falloir
partout.
Vous départager avec la question subsidiaire. Le principe est très simple, je vous pose cette question. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse, chacun. Et c'est celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse, qui remporte donc le jeu et les cadeaux. Vous êtes prêts ?
Tout à fait.
C'est parti. Quel est l'âge de la Terre ? Tout simplement.
On serait dans les 35 millions d'années.
35 millions d'années, d'accord. Et votre réponse, Julie ?
100 millions d'années, au pif.
Alors, c'est Julie qui est la plus proche de la réponse, même si on en est très, très loin.
Même si on est très, très loin, puisque la Terre est âgée de 4,57 milliards d'années.
Voilà, on n'est même plus en millions. On était en milliards. Voilà. Mais Julie, ça vous permet quand même de remporter la boîte de jeu de la tête au carré.
Félicitations, Julie.
Félicitations à vous. Voilà, 300 questions de science pour tester vos connaissances avec vos amis. Et on ajoute également Safari dans la bouse, donc le petit livre sur les...
Coprophages.
Voilà.
Les amateurs de caca, par exemple.
Tout à fait.
Tous les insectes qui aiment beaucoup le caca.
J'ai appris un mot aujourd'hui.
Voilà, Julie, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Maxime, merci beaucoup. Bonne journée à Paris et à très bientôt pour ceux qui souhaitent s'inscrire. franceinter.fr.
Merci.
Au revoir.